Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau point de mire qui va donner le plaisir d'aller à la rencontre de deux jeunes économistes, Jean-Luc Buchalet et Pierre Sabatier du cabinet PrimeView, co-auteurs d'une analyse récente et très remarquée sur un douloureux sujet, l'endettement public, avec donc un titre pour leur note récente, l'endettement public, ce terrible fardeau. Alors, nous allons revenir sur ce sujet en détail. Je voudrais simplement poser donc le cadre général. Le retour des États au premier rang de l'ordre économique et financier mondial semblait devoir constituer pour nombre d'acteurs et d'observateurs la réponse universelle et incontournable pour réguler les échanges dans le monde de l'après-crise et instiller de la morale, enfin dans les marchés en proie à l'irrationnel et à la perversité. Quelques voix s'élevaient bien contre cette logique. Au secours, l'État revient, déclarait-il, passant le plus souvent pour d'horribles adeptes du tout libéral. Mais vox clamati in desertum, il n'est pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Messieurs, bonjour. Merci d'avoir pris sur votre temps pour nous venir aborder ce sujet sur notre antenne. Peut-être avant d'aller un peu plus loin dans cette thèse, je voudrais quand même que vous me rappeliez un peu ce qu'est le cabinet PrimeView et comment vous vous répartissez la tâche. Donc, Pierre Sabatier d'abord.
Bonjour, merci Jean-Louis. Alors, PrimeView, c'est un cabinet de recherche économique et financière qui s'intéresse à toutes les problématiques qui peuvent interférer sur la vie économique et au-delà sur les marchés financiers. Voilà, en sachant qu'on ne peut pas saisir, et c'est notre thèse, on ne peut pas saisir les marchés financiers sans bien comprendre toutes les interdépendances entre l'économie, la politique et la société. Donc on s'attelle, Jean-Luc et moi, en tant que directeur de la publication, de choisir les thématiques qui vont déterminer l'orientation des marchés financiers in fine.
Moi-même, bonjour. Je suis PDG fondateur de Pythagore, qui est une société de gestion purement quantitative. Et PrimeView est l'effet de levier sur la stratégie et sur l'économie, bien entendu. Pour pouvoir bien comprendre même les mathématiques et les modèles quantitatifs, il faut avoir les pieds sur terre et comprendre les fondamentaux.
Alors, je disais tout à l'heure qu'il n'est pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et les premiers exposés étaient ceux qui croyaient enfin avoir trouvé une validation à leur thèse visant à placer l'économie dirigée ou socialisée au niveau le plus haut dans l'organisation planétaire. Quant à l'endettement public, il était vu comme une source inépuisable de profits futurs. Ne parlait-on pas de bonnes et de mauvaises dettes ? Il était vu comme une source, c'est ce que j'ai dit, d'inépuisable de profits futurs. On parlait de dettes bonnes et mauvaises, la bonne ressemblant à tout point à la potion magique d'Astérix. Las, le réveil est très douloureux, car si les interventions étatiques ont paru un temps apporter une forme de confiance, c'est au prix d'un alourdissement d'une situation d'endettement, jusqu'alors relativement occultée, en tout cas renvoyée pour examen aux prochaines calendes, calendes grecques bien entendu. Ainsi comprend-on cette introduction sans concession de nos deux co-auteurs. Si la forme de la reprise mondiale est encore incertaine, une chose est sûre, l'endettement public des pays industrialisés sera de plus en plus une source d'inquiétude. Alors, Pierre Sabatier, d'une façon générale, c'est quoi cette inquiétude par rapport à la dette ?
Alors, je pense qu'il faut revenir sur l'origine en fait de ce gonflement, de la dernière bulle, je dirais, la bulle sur l'endettement public, qui est sans doute la bulle la moins vertueuse pour les actifs en général. D'abord, il faut bien rendre, je dirais, hommage aux États. Il était nécessaire en période de crise, une crise aussi douloureuse et qu'on n'avait pas connue depuis presque un siècle, il était nécessaire en gros de subvenir au chevet, je dirais, de l'économie. Et en cela, il était normal de mettre en place des plans de relance extrêmement massif pour soutenir l'économie qui sinon serait rentrée sans doute dans un cercle vicieux qui aurait été extrêmement néfaste pour le futur. Maintenant, aujourd'hui, nous nous trouvons plus en phase de reprise, c'est-à-dire que nous avons atteint le point bas en termes de récession dans le courant de l'année 2009. Et dans cette phase de reprise-là, il convient de se projeter et de bien avoir conscience qu'il ne sera plus possible de maintenir des déficits publics ad vitam aeternam extrêmement élevés puisque in fine, ils causeront, en gros, ils viendront petit à petit manger, je dirais, les recettes publiques à un point qui viendra diminuer la croissance potentielle de l'ensemble des pays industrialisés s'ils ne font rien jusqu'à maintenant.
Vous avez quelques indicateurs justement sur ce point. Au-delà de 90% de taux d'endettement du PIB, on commence à rentrer dans une phase un petit peu délicate.
Absolument.
Pour la croissance.
Absolument, que ce soit dans les pays émergents ou les pays industrialisés. Une étude américaine est sortie, je dirais, en début d'année, extrêmement intéressante, qui s'est plongée sur un historique de plus de 2 siècles et qui a étudié les pays les uns après les autres pour effectivement quantifier le niveau d'endettement public au-delà duquel la croissance pâtit de cet endettement public-là. Et de manière relativement amusante, que ce soit sur les pays émergents ou les pays industrialisés, vous avez systématiquement cette barrière symbolique de 90% du PIB en termes d'endettement public, au-delà duquel la croissance potentielle et la croissance enregistrée chutent de manière très conséquente, puisque par rapport au niveau en deçà de 90% d'endettement public, vous êtes autour de 3,5-4% sur l'ensemble des pays considérés, et vous tombez autour de zéro. Donc en gros, vous avez une perte de croissance au-delà de 90% de près de 3,5% du PIB en moyenne, ce qui est absolument colossal. Et dans ce cadre-là, vous comprenez bien qu'il n'est pas possible d'envisager un retour à un cercle vertueux à la création de richesses au-delà de taux d'endettement supérieur à 90%.
Alors vous indiquez des chiffres qui font froid dans le dos. La dette des pays industrialisés est passée de 35 000 milliards de dollars en 2006 à 54 500, portant le ratio de dette sur PIB à plus de 98% en moyenne en 2010. Les chiffres sont bons, hein ?
Absolument, les chiffres sont bons. Bon. D'où notre inquiétude. Vous comprenez bien qu'en constatant qu'historiquement, un taux d'endettement au-delà de 90% vient, amputer la croissance d'une large part de ce qu'elle devrait être en deçà de 90%. Voilà. Donc, il est très clair que dès l'année 2011, la problématique de l'endettement public va être discriminante au sein des États industrialisés. Et ceux qui seront le plus en mesure de diminuer cet endettement public à des niveaux qui seront plus soutenables et plus acceptables, pourront se projeter de manière beaucoup plus sereine dans l'avenir.
Alors, il y a une première remarque, c'est qu'en fait, vous disiez tout à l'heure dans l'introduction de votre propos que l'endettement public avait été gonflé, si je puis dire, par la traversée de la crise. Mais le niveau d'endettement public avant la crise était déjà extrêmement élevé, enfin par rapport aux périodes classiques.
Alors, je dirais qu'il était élevé, mais pas extrêmement élevé. Ce qui est le plus frappant et le plus marquant dans la période qui a précédé la crise, c'est qu'en général, vous savez que l'économie est cyclique et qu'on profite des phases de forte croissance pour justement diminuer cet endettement public, pour se donner des marges de manœuvre une fois le cycle, se retournant dans le côté sur la pente descendante. C'est ce qui n'a pas été fait. Et donc, effectivement, l'ensemble des pays industrialisés ont abordé la crise en général avec un taux d'endettement autour de 60%. Il faut bien garder en tête, par contre, qu'un taux d'endettement de 60% du PIB n'est pas un problème pour la croissance potentielle. Il devient un problème puisqu'après la crise, on retrouve des taux d'endettement qui sont au-delà du supportable.
Donc, l'endettement public s'est alourdi de presque 50%. Alors, s'il est passé de 60 à 90 après crise.
Absolument, absolument.
Enfin, c'est de l'ordre 2. Enfin, c'est les grands chiffres. Effectivement, le poids de la crise est relativement considérable. Donc, en ce sens, c'est une forme qui permet de rassurer. Cela étant, qu'est-ce qu'on va faire de cet endettement supplémentaire ? Alors, vous dites que des épisodes de fort endettement public ne sont pas rares sur longue période, mais ils sont en règle générale consécutifs à des efforts de guerre. La reprise se faisant alors logiquement par la reconstitution d'un appareil productif dévasté, une forte croissance accompagnée d'une forte inflation, elle-même acceptable par la logique de la reconstruction. Or, cette fois-ci, les déficits sont devenus structurels et n'ont pas de lien avec une situation de guerre mondiale, enfin en tout cas sous sa forme classique. Il faut donc s'attendre à des efforts sans précédent et sans doute comme ceux, à l'instar de ceux qui devront être consentis par le Japon, qui pour vous, donc Jean-Luc Buchalet, est l'archétype des pays surendettés.
Alors, le Japon est un bon exemple puisqu'il nous donne une vision de ce qui nous attend à long terme, en gros dans les 10 années qui viennent, si on n'essaye pas de remédier relativement vite à ce problème de l'endettement. Donc si on prend l'évolution du Japon au sortir de l'éclatement de la bulle, au début des années 90. En grosso modo, le Japon était à peu près dans la situation de l'Europe avec un taux d'endettement rapporté au PIB qui était de l'ordre de 60%. Donc on était exactement dans la même situation d'un pays qui était en pleine croissance. La croissance a été immédiatement stoppée par l'effondrement des marchés financiers et puis l'effondrement de l'immobilier. Donc on était dans un contexte un peu similaire, une crise relativement. Alors, la grande différence par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, c'est que cette crise était localisée au marché japonais. Le Japon aujourd'hui se retrouve avec un endettement qui est de l'ordre de 220% du PIB, ce qui est énorme. Et vous voyez donc, ça fait 20 ans.
Deux fois et demi.
Alors, la particularité du Japon, et là encore, c'est plutôt au désavantage de l'Europe et des États-Unis, c'est que le Japon avait un taux d'épargne qui était relativement élevé, ce qui fait que le Japon avait la capacité d'autofinancer cette problématique de l'endettement public.
Ce qui veut dire que la dette publique du Japon est assez peu portée par les marchés.
Alors donc, la dette, grosso modo, alors le problème, c'est qu'on arrive maintenant à une échéance, puisque puisque grosso modo, les Japonais financent 95% de leur endettement public. On est avec une structure de taux qui se situe autour de 1,5%, c'est-à-dire que l'épargnant japonais a accepté d'avoir des rendements extrêmement faibles, ce qui ne sera pas le cas pour l'Europe ou les États-Unis, où il y aura une demande à l'extérieur. On le voit très bien, la différentielle de taux d'intérêt. Si vous prenez le 10 ans, on est à peu près autour de 1,6% au Japon et on est à peu près autour de 4% aux États-Unis. Donc cette prime de risque relativement entre ces deux pays s'explique par le fait que les États-Unis, dans une moindre mesure l'Europe, ont besoin de l'extérieur pour pouvoir financer leur endettement. Et là, on se trouve à un carrefour et qui donne bien l'image de ce qui nous attend, c'est-à-dire que là, le Japon a besoin, commence à avoir besoin de l'extérieur. Donc on va rentrer dans un espèce de cercle infernal où les taux d'intérêt vont commencer à monter, à l'image de ce qui pourrait se passer sur les États-Unis et l'Europe.
Oui, parce qu'ils vont venir concurrencer, en fait, la demande sur les marchés financiers,
voilà.
Même titre que les autres.
Voilà, et ce que je voudrais quand même bien expliciter, c'est-à-dire que le Japon, tout seul dans sa crise, à la différence de là, c'est l'ensemble des pays industrialisés, des pays riches qui se trouvent confrontés à cet endettement public, était dans une zone où la croissance était extrêmement forte, puisque la proximité avec la Chine, l'Inde, l'Indonésie, aurait dû permettre au Japon de pouvoir restructurer sa dette et se retrouver à des niveaux qui étaient convenables. Avec un pays qui est complètement tourné vers l'extérieur, et donc qui avait cette capacité d'exportation fantastique et qui a toujours cette capacité, un niveau de recherche et développement qui fait partie des pays les plus avancés. Et donc, on s'aperçoit que le Japon n'y est pas arrivé.
Et pourquoi ?
Alors, pourquoi le Japon n'y est pas arrivé ? C'est parce que, bien entendu, quand vous rentrez dans cette espèce de spirale infernale et où vous avez atteint un certain seuil, le retour en arrière est extrêmement difficile. Le Japon a un moment essayé, notamment dans les années 98, au moment de la crise asiatique, de remonter. Et donc là, on a bien la problématique qui nous attend, c'est-à-dire d'essayer de ralentir cet endettement en abaissant le déficit budgétaire. Et ils avaient remonté de quelques points de la TVA. Et le fait d'avoir remonté l'impôt pour pouvoir essayer de restructurer la dette, ils ont plongé définitivement, puisque c'est la date de 98 qui correspond au plongeon vers la déflation.
Parce que donc, cette remontée du taux de la TVA a eu un effet, alors bien sûr de prélèvement, mais un effet aussi psychologique négatif sur le consommateur japonais.
Voilà,
alors j'imagine.
Le consommateur japonais, alors là encore, vous avez le déroulé de ce qui nous attend, puisque la pyramide des âges est à peu près la même que celle de l'Europe et surtout de l'Allemagne, mais avec on va dire, un décalage de 10 ans. Donc vous êtes dans une pyramide des âges, et alors pour aller plus loin, si on regarde une projection en 2050, vous allez avoir à peu près la moitié de la population qui va avoir de plus de 60 ans. Donc, on est dans un espèce de cercle infernal. Alors, pour le moment, les marchés financiers ne s'inquiètent pas trop parce qu'ils sont encore dans l'idée où l'épargne japonaise peut autofinancer. Alors, je vais vous donner justement le chiffre qui est le seul qui est significatif. On était avec une épargne, donc un endettement net, donc c'est la différence entre actif-passif, qui était de l'ordre de 17% du PIB au début de la crise, en début des années 90. On est aujourd'hui à 120%. Donc, on tombe dans la limite. Et alors, là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que là, vous aviez le Japon dans un bassin de croissance qui n'y arrivait pas, avec cette problématique de pyramide des âges, le fait qu'on passe en déflation avec cette bulle immobilière qui a explosé. Et là, on est pile poil aussi dans un contexte de déflation immobilière un peu partout en Europe et aux États-Unis. Donc, notre inquiétude est quand même relativement justifiée. Alors, il ne faut pas s'inquiéter trop tôt, parce que ce sont des grands paquebots. Donc, ce n'est pas avant 2011-2012, mais l'avant-goût de ce qui se passe en Grèce, de ce qui va se passer probablement au Portugal et en Espagne, vous laisse imaginer probablement des tensions très fortes, mais dans un espace de 2 ans.
D'accord. Donc, vous dites, le Japon, c'est l'antimodèle. Le niveau d'endettement, c'est surtout celui où il ne faut pas aller. Et les solutions, par contre, on les attend, comme disait le général de Gaulle. Alors, je me tourne vers Pierre Sabatier, qui peut-être, lui, a dans sa manche des solutions à proposer.
Alors, les solutions seront extrêmement complexes à mettre en place.
Voilà.
Le déficit, lui, vous savez, c'est recettes moins dépenses. Bien entendu, le mieux serait de jouer sur les deux phénomènes, en sachant qu'on a quand même une vraie véritable problématique en termes de dépenses publiques qui correspond au vieillissement de la population, qui fait qu'on voit mal l'État prendre moins en charge, en valeur absolue, je le dis, en valeur absolue, moins de frais de santé ou de frais liés à la retraite, en sachant que la population vieillit. Donc là, on a un véritable goulet d'étranglement qui va être très complexe à résoudre. Par contre, du point de vue des recettes, comme on l'entend tout récemment, la problématique du bouclier fiscal, en tout cas, l'impôt, grosso modo, sera obligatoirement, va augmenter sans doute, et va sans doute aller chercher l'argent un peu plus là où il se trouve, c'est-à-dire vers les classes les plus aisées. Et d'ailleurs, les différents débats en ce moment font état d'une, quel que soit le parti politique qu'on considère, sont en train de reconsidérer cette chose-là, parce qu'il va bien falloir trouver les moyens, entre guillemets, de faire face à une pression sur les dépenses publiques qui ne va faire qu'augmenter du fait de la pression démographique.
On connaît les chiffres. Donc, en gros, les niches fiscales, c'est 70 milliards d'euros donc en France. Donc, c'est un chiffre qui est colossal. Donc, est-ce que le gouvernement actuel aura le courage de s'attaquer à ces niches fiscales de façon à avoir d'abord une espèce de transparence, parce qu'à force, on n'y comprend plus rien du tout. Et l'effort qui est demandé donc, à l'ensemble, et la France à peu près se situe dans la moyenne des pays riches, c'est de réduire le déficit primaire de 6% du PIB. sur l'ensemble des pays riches. Donc, vous imaginez la ponction en termes de croissance que ça. Donc, ça veut dire qu'il va falloir le faire de façon coordonnée. Et derrière tout ce problème de la dette publique, qui est la conséquence de ce qu'a expliqué Pierre, c'est-à-dire l'éclatement de cette bulle, il a fallu que les États interviennent, et heureusement qu'ils sont intervenus. Mais derrière, vous avez le fameux problème du partage de la valeur ajoutée et le fait que les gens, partout dans le monde riche, du fait de cette pression, notamment des pays émergents et de la Chine, avec sa sous-évaluation de la monnaie, sur les salaires. C'est-à-dire qu'il faudrait que, de façon assez généralisée, et notamment l'exemple de l'Allemagne, qu'on accepte, mais ça, je pense que c'est peut-être un peu illusoire, de dire, bon, il y a une espèce de... On se réunit tous et on commence à se dire, il faut que les gens puissent vivre correctement avec leur salaire. Donc, il faut qu'il y ait un partage de la valeur ajoutée qui soit différent. Donc, il y a tout un débat sur ce partage de la valeur ajoutée qui peut donner la solution au problème.
Mais le partage de la valeur ajoutée, ce partage est resté extrêmement stable au cours du siècle dernier. C'est-à-dire, c'est le rapport entre 2 tiers, 1 tiers entre le capital et le travail.
Alors, ça dépend des zones. Alors, la France est un peu à l'écart. Donc, puisque si vous prenez les États-Unis, entre début 2001 et aujourd'hui, le partage de la valeur ajoutée a été jamais dans l'histoire aussi favorable aux entreprises, puisqu'on a eu 9% de PIB qui ont été transférés de la poche des salariés vers la poche des entreprises.
Mais ce n'est pas le cas de la France.
Alors la France, le phénomène a eu lieu, mais pas de façon assez surprenante, au début des années 80, notamment avec l'arrivée de Mitterrand. Et là, il y a eu un transfert à peu près de l'ordre de 5 à 6 points de PIB, et après, surtout dans le sens des salariés vers les entreprises. Et à partir des années 90, que ce soit gouvernement de droite ou de gauche, on a grosso modo une stabilisation. Alors, les 35 heures ont fait beaucoup de mal, dans la mesure où, justement, il a bien fallu, parce que les entreprises ont été pénalisées, et donc on a eu, notamment avec le SMIC, la revalorisation du SMIC fait que le partage de la valeur ajoutée est resté stable.
C'est ça. Oui, d'accord. Pierre Sabatier.
En complément, d'ailleurs, il faut aussi considérer le partage de la valeur ajoutée au sein de la classe des salariés. Un chiffre qui est très explicite aux États-Unis, puisqu'on a plus de profondeur et on a plus d'historique. Il faut savoir que les 10% les plus riches américains, en 1980, gagnaient 33% du total des revenus du capital compris. En 2008, les 10% les plus riches gagnaient 48% du total des revenus. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, on ne peut pas dire qu'en tout cas la création de richesse ait été partagée de manière, je dirais, homogène entre l'ensemble des classes sociales qui composent une société. Je tiens à rappeler, parce que certains s'amusent à dire qu'il ne peut pas y avoir de création de richesse avec, je dirais, en maintenant, entre guillemets, artificiellement, c'est-à-dire via l'État, une certaine stabilité dans ce partage des revenus au sein des classes sociales. Je rappellerai simplement qu'en 1945, les 10% les plus riches américains gagnaient 33% du total des revenus. En 1980, ils gagnaient toujours 33% du total des revenus. Et en sachant que cette période comprend bien sûr les 30 glorieuses. Donc il faut lutter contre cette fausse idée qui est qu'il ne faut pas réguler les flux d'argent au sein des classes sociales sous peine de pénaliser la croissance. En tout cas, historiquement, certaines périodes de l'histoire nous ont démontré le contraire. Voilà. Et un dernier chiffre, en 1929, les 10% les plus riches américains captaient 46% du total des revenus.
Bon, donc ceci nous montre l'étendue des efforts et surtout du volontarisme politique qu'il va falloir dégager. Ceci serait en soi une autre histoire sur laquelle on pourra revenir. Je voudrais quand même, avant de conclure, venir sur les conséquences sur les marchés financiers de ce que vous venez de développer l'un et l'autre, à savoir sur les marchés obligataires et sur les marchés actions. Alors, vous voyez assez mal, bien que vous évacuez pas totalement le risque, un krach généralisé obligataire. Par contre, vous dites que c'est parti pour 5 à 10 ans de misère pour les actions.
Alors, sur les marchés actions, Jean-Luc Buchelet, puisque bon, les marchés de taux ont une influence très forte sur l'évolution du niveau des marchés actions, vous avez un endettement privé aussi qui est relativement élevé, que ça soit aux États-Unis. Alors en France, on est quand même dans une situation un peu moins catastrophique que l'Espagne ou la Grande-Bretagne. Mais vous êtes dans une situation où l'effet richesse étant négatif, les agents privés vont commencer à se désendetter. Et vous avez un switch entre le désendettement des agents privés qui se transfère, bien entendu, vers l'endettement public. Et ce qui fait que globalement, l'épargne mondiale est largement excessive par rapport à ce phénomène de transfert qui fait qu'il n'y a pas de crainte de krach obligataire. La crainte d'un krach obligataire, ça serait paradoxalement que les entreprises se remettent à investir massivement, fortement, que les particuliers se remettent à s'endetter fortement pour pouvoir acheter de l'immobilier ou s'endetter pour le crédit à la consommation. Mais compte tenu des niveaux d'endettement, des profils de croissance, du niveau de chômage, je pense qu'on peut exclure ce type de scénario. Donc ça veut dire quoi? Pas de krach obligataire et en général des marchés qui sont relativement ternes, puisque quand même derrière tout ça, il y a la trappe à liquidité, c'est-à-dire des marchés de déflation. On a quand même connu une progression de l'ordre de 75% du marché américain, à peu près de l'ordre de 68% du marché français. Donc, il n'y a pas grand-chose à attendre. En tout cas, à court terme, tout ça est bien intégré. Donc, on devra avoir un marché qui oscille...
Comme vous dites, en tôle ondulée.
En tôle ondulée, exactement.
D'accord. Bien, alors, en conclusion, d'un mot ou d'une phrase, chacun de votre côté, l'endettement public, ce terrible fardeau, on en sort comment, Pierre Sabatier? Pour la France, on va dire, déjà, pour commencer.
Alors, pour la France, il faut bien noter quand même que la France est dans une situation, je dirais, intermédiaire. C'est-à-dire qu'elle est loin d'être le plus mauvais des élèves. Il faudra diviser les propos de certains. Bon, et ce n'est pas le meilleur élève. Et à ce titre, on pourrait mentionner l'Allemagne. En termes d'endettement public, en sachant que l'Allemagne a un certain nombre d'autres défauts liés à son modèle économique, qui est relativement dépressif et qui compte peu sur ses propres consommateurs. Donc, comment on sort de l'endettement public? Il faudra pas hésiter à mettre sur la table un certain nombre de réformes politiques. Et on aime à dire que autant les 30 dernières années ont été marquées par l'effacement finalement du politique au profit de l'économique, dans cette forme de libéralisation extrêmement poussée qu'on a connue au cours des 30 dernières années, autant la décennie qui vient va sans doute marquer le retour du politique sur l'économique. Et donc je dirais qu'on en sortira par des solutions qui sont...
Volontaristes. Le retour du politique. Alors, et alors, Jean-Luc Bouchalet, il dit quoi?
Une réponse assez pratique. Tous les exemples, vous pouvez prendre l'Argentine, vous pouvez prendre le cas de la Russie au moment du krach de 98, ou d'autres pays, ou ce qui est en train de se passer en Grande-Bretagne, c'est-à-dire qu'il faut une dévaluation massive de la monnaie pour pouvoir rendre compétitif de façon à se retrouver avec un ballon d'oxygène. Vous ne pouvez pas à la fois faire un effort sur les taux, faire un effort au niveau budgétaire et en plus faire un effort au niveau de la compétitivité de la monnaie. Et donc, derrière ce sous-jacent du problème de l'euro, il y a le problème du yuan, c'est-à-dire qu'il faut que les Chinois acceptent enfin de réévaluer. Mais là, on n'est pas sorti de l'auberge parce que...
On n'est pas sorti de l'auberge, mais il semble quand même avoir compris qu'il fallait qu'ils fassent quelques pas.
Quelques efforts.
La problématique étant qu'ils ne veulent pas perdre la face parce qu'en fait, voilà, ils ont un boulet qui est accroché à leur pied, qui est celui donc du climat social et sur lequel ils tiennent en fait la paix sociale. Et donc, s'ils lâchent trop brutalement et que ça se voit trop, donc il semble que la Chine-Amérique, puisque c'est un sujet aussi que vous connaissez, est en train de redevenir au centre de la problématique mondiale.
Mais ce qu'on peut dire quand même du côté des Chinois, ce sont de fins stratèges, c'est-à-dire qu'ils vont nous donner 1 ou 2% de hausse du yuan pour pouvoir satisfaire tout le monde. Et compte tenu un peu de la non-réaction depuis des années de l'Occident, qui s'est satisfait de cette situation et dont une des parts de la responsabilité de la non-réévaluation du yuan a mené à la crise qu'on connaît aujourd'hui. Donc, en tout cas, à court terme, on ne peut pas attendre grand-chose de nos amis chinois.
Voilà, alors donc, c'était le mot de la fin de Jean-Luc Buchalet. Pour, en grande synthèse, je dirais que l'endettement public, ce terrible fardeau, c'est aussi bonjour les remboursements après l'endettement et merci de l'arrivée des impôts nouveaux.
Exactement.
À très bientôt, messieurs. Merci.
Merci beaucoup.